Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 8h.
On profite de ce long week-end de Pâques pour chercher des œufs en famille et puis laisser nos enfants où on peut.
Et appel à tous les grands-parents, notamment avec le troisième confinement qui débute, les écoles vont rester fermées pendant au moins 3 semaines. Vous êtes nombreux à mettre vos enfants au vert.
Et si c'est une assistante maternelle qui garde vos enfants, pas de panique, elles pourront continuer à travailler. L'exécutif a tranché hier soir.
Aux États-Unis, première semaine du procès de Derek Chauvin, ce policier accusé d'avoir tué George Floyd. Une vingtaine de témoins ont déjà été entendus.
Et puis en football, duel au sommet cet après-midi. Le premier du classement affronte le deuxième, PSG Lille, 17h. Et c'est avec Neymar qui fait son grand retour.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il vous reste donc 3 jours pour trouver le système D. Comment faire garder vos enfants tant que les écoles seront fermées?
Pour certains parents, pas question de revivre les mêmes scènes qu'au printemps dernier, le télétravail avec les enfants à côté. Alors ces derniers jours, eh bien c'est le téléphone des grands-parents qui a chauffé. Reportage à Bordeaux de Stéphane Place.
Gare Saint-Jean, TGV en provenance de Montparnasse. Flora vient d'arriver, tenant une valise dans une main, sa petite fille dans l'autre. Opération transfert et garde d'enfants chez mamie. Nouvelle période de confinement oblige.
J'arrive de Paris, puisque je me retrouve du coup avec ma fille de 3 ans et demi sur les bras. Je suis en plus en période d'essai, donc autant dire que je dois me focaliser sur mon travail. Mon mari bosse aussi, et donc la plus grande de nos filles, on la descend à Bordeaux. On a réquisitionné ma mère pour nous rendre service. Donc on profite de ce long week-end de Pâques pour chercher des œufs en famille et puis laisser nos enfants où on peut.
Incontournable et précieux grands-parents qui bouleversent parfois leur propre planning pour s'adapter aux prochaines semaines. C'est le cas de Anne, rencontrée également sur le parvis de la gare bordelaise.
Tout a été chamboulé puisque le petit Léo qui a 2 ans et demi habite à Paris et la crèche est fermée. Donc les parents vont s'organiser pour venir l'accompagner et puis ensuite repartir travailler à Paris. Et nous qui sommes encore actifs, on va prendre des jours de congé pour pouvoir leur permettre eux de s'organiser.
Une grand-mère ravie d'accueillir son petit-fils et de bénéficier, malgré les nouvelles restrictions, d'une tolérance sur les déplacements pour organiser la venue ce week-end de l'enfant dans le sud-ouest. Bordeaux, Stéphane Place, Europe.
Les écoles et les crèches sont donc fermées pour au moins 3 semaines. Et pour les parents qui font garder leurs jeunes enfants par des assistantes maternelles, la bonne nouvelle est arrivée hier. Olivier Samin, la pratique va rester autorisée pendant le confinement.
Oui, les assistantes maternelles pourront continuer à accueillir des enfants. Mais les parents sont encouragés à éviter au maximum ce mode de garde afin de tout faire, dit le communiqué du ministère, pour freiner la circulation du virus. Sachant qu'une étude de l'Institut Pasteur a montré que le risque d'infection chez les assistantes maternelles est plus élevé que dans les crèches. Le gouvernement souhaite donc que les parents n'y aient recours qu'en cas d'absolue nécessité et fait appel à leur esprit de responsabilité collective. Alors que va-t-il se passer si les parents suivent cette recommandation et renoncent à déposer leurs enfants? La règle, qui avait été mise en œuvre lors du premier confinement, s'appliquera. Les assistantes maternelles devront se mettre d'accord avec les parents pour être admises à un dispositif d'indemnisation qui s'apparente au chômage partiel, même si ça n'en est pas au sens strict, et qui leur permettra de toucher 80% de leur rémunération. Un taux que les syndicats d'assistantes maternelles jugent insuffisant.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
Ces dernières 24 heures, plus de 46 000 nouveaux cas ont été détectés. Et voilà qui devrait améliorer encore le dépistage. Les autotests seront disponibles en pharmacie à partir du 12 avril.
Anne Le Gall, vous êtes notre spécialiste santé. L'avantage, Anne, c'est qu'on peut les utiliser à la maison.
Voilà, c'est une sorte de coton-tige avec lequel on frotte l'intérieur de la narine, mais on l'enfonce beaucoup moins profondément qu'un écouvillon classique. Pas besoin d'aller au fond des fosses nasales, il suffit de l'enfoncer à 3 cm et on fait ensuite réagir le prélèvement avec un réactif. Le résultat apparaît ensuite au bout de 20-30 minutes, comme pour un test de grossesse. D'après les modèles qui existent à l'étranger, il faut compter entre 5 et 10 euros le test. Il y a 15 jours, la Haute Autorité de Santé avait rendu un avis favorable pour leur utilisation chez les personnes asymptomatiques dans 2 situations, soit dans le cadre d'un dépistage ciblé à grande échelle, dans une école par exemple, soit dans la sphère privée avant une rencontre familiale. Mais ces autotests sont pour l'instant réservés aux plus de 15 ans car l'anatomie du nez pourrait modifier le résultat chez les plus jeunes et l'on manque pour l'instant de données cliniques à ce sujet. Tous les tests autorisés devront en tout cas avoir une sensibilité d'au moins 80% et il y a un impératif: en cas de résultat positif, les les patients devront obligatoirement faire un test de confirmation pour rechercher la présence d'un éventuel variant et lancer le contact tracing.
Merci Anne Le Gall. S'agissant des vaccins, 9 millions de personnes ont reçu une première dose. La campagne se poursuit avec ce cap rappelé mercredi soir par Emmanuel Macron.
Nous mettons tous les moyens pour vacciner, vacciner, vacciner.
Ça, c'était mercredi et l'exécutif, depuis, tente d'éteindre une polémique. Jean-Rémy Baudot, le gouvernement assure que toutes les doses sont bien utilisées.
Oui, pas de vaccin dans les frigos, promet Olivier Véran. Pas de Spoutnik sur l'étagère, plaide son collègue à l'Europe, Clément Beaune. On est en flux tendu, jure-t-on au ministère de la Santé. Concrètement, au dernier pointage, 90% des doses de Pfizer sont utilisées, 75% des AstraZeneca, 65% des Moderna. On parle de taux d'utilisation, un taux qui dépend de l'acheminement des vaccins, de leur mise en flacon, mais aussi des doses sécurisées pour la deuxième injection. On ne peut pas aller plus vite, on fait avec ce qu'on a. Ce qui manque, ce sont les doses, plaide un conseiller. Une tendance qui devrait rapidement s'inverser avec une forte hausse des livraisons attendues dans les prochaines semaines. D'ici fin juin, la France doit avoir reçu 60 millions de doses. Plus on s'approche de l'été, moins les vaccins seront un sujet, me confie récemment une ministre. Si le gouvernement ne veut pas laisser planer de doutes, c'est que toute la stratégie française de sortie de crise repose sur une vaccination massive dès que possible. Emmanuel Macron le promet à tous les adultes d'ici à la fin de l'été. Un pari qui repose plus, en réalité, sur les capacités de production et de livraison des laboratoires que sur sa propre volonté politique.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Et quel progrès sur les vaccins, notamment sur les ARN messagers? Il y en a notamment sur la transmission de la maladie. Anne-Claude Crémieux, l'infectiologue, nous en parle à 8h15.
En France, on le disait, 9 millions de personnes ont reçu une première dose. C'est peu comparé aux 100 millions d'injections réalisées aux États-Unis. La barre a été franchie hier. Et puis cette dernière info s'agissant du Covid. Le président argentin a été testé positif. Alors même qu'il est vacciné depuis 2 mois, il a déjà reçu ses 2 doses du vaccin russe Spoutnik.
8h06, dans un instant, on part aux États-Unis avec le procès de Derek Chauvin, le policier accusé du meurtre de George Floyd. Les témoignages se sont succédés toute la semaine.
Europe 1, votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
La suite du journal de Marguerite Lefebvre, la première semaine du procès de Derek Chauvin s'est achevée hier à Minneapolis.
Ce policier blanc accusé d'avoir tué un Afro-Américain lors de son interpellation lundi dernier, les débats sur le fond se sont ouverts. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Les audiences ont été marquées par des témoignages poignants toute la semaine.
Oui, à commencer par le témoignage de celle sans qui l'affaire George Floyd n'aurait sans doute pas existé, Darnella Frazier, 18 ans. C'est elle qui a filmé l'arrestation le 25 mai 2020. Ses souvenirs la hantent encore. J'ai passé des nuits entières à m'excuser auprès de George Floyd pour ne pas en avoir fait davantage, pour ne pas lui avoir sauvé la vie. Ce sentiment de culpabilité, il est partagé par les témoins de l'arrestation de George Floyd, traumatisme renouvelé par les images de l'interpellation. Autre moment clé, le récit de Derek Smith, un des 2 ambulanciers arrivés sur place. Les officiers étaient toujours sur lui quand je suis arrivé. Ses pupilles étaient larges et dilatées. Je n'ai pas pu trouver son pouls, j'ai pensé qu'il était mort. Et pourtant, il faut attendre encore plusieurs minutes avant que Derek Chauvin retire son genou de la nuque de George Floyd. Trop longtemps, selon David Ploeger, ancien superviseur de Derek Chauvin, désormais retraité. Quand M. Floyd n'opposait plus de résistance, les officiers auraient pu relâcher leur étreinte. Enfin, la compagne de George Floyd a témoigné. Courtney Ross a décrit un homme aimant et raconté leur addiction commune. On souffrait tous les deux de douleurs chroniques. On a eu des ordonnances pour des opioïdes. Elles ont été renouvelées et on est devenu accro. Et c'est bien sur ce thème que l'avocat de Derek Chauvin veut insister, prouver que cette addiction est responsable de la mort de George Floyd. Le procès reprend lundi matin.
Merci Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Puis les drapeaux de la Maison Blanche sont en berne ce matin. Un homme a foncé hier en voiture sur un barrage de police près du Capitole. Un policier a été tué. En France, un mouvement de grève est annoncé chez Carrefour. Aujourd'hui, il pourrait perturber une centaine de magasins selon les syndicats. Les syndicats qui réclament de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires.
Son témoignage a permis de libérer la parole dans le monde du sport. Il y a un an, la patineuse Sarah Bidbol accusait son médecin entraîneur de viol et d'agression sexuelle.
Un an plus tard, les langues se délient. Plus de 400 signalements sont remontés au ministère. La plupart du temps, ce sont des éducateurs qui sont accusés et de jeunes mineurs qui sont victimes. Les témoignages font bouger les consciences, selon Sarah Abitbol.
Je pense qu'il fallait le faire et je peux dire aujourd'hui que je suis fière de l'avoir fait, même si parfois il y a encore des retours un peu compliqués. Et surtout, ce que je vois, c'est que maintenant, les victimes ont moins honte de parler. Je suis en vie, debout et à me battre aussi pour les autres. Le bilan, malheureusement, toutes ces fédérations touchées, je pense que c'est positif parce qu'il y a vraiment une prise de conscience générale.
L'ancienne patineuse Sarah Abitbol avec Corinne Boulou.
Et il y aura du football ce soir. Ça n'est pas n'importe quelle journée puisque 4 des 5 meilleurs clubs français vont s'affronter.
Lens, 5e du championnat, reçoit Lyon, 3e à 21h. Et puis avant cela, le choc de cette 31e journée. PSG-Lille, le leader contre son dauphin. Une rencontre marquée entre autres par le retour de Neymar, Julien Froment.
C'est un Neymar méconnaissable qui est apparu au Camp des Loges, le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Visage affiné, rasé de près, quelques kilos en moins sur la balance, le Brésilien s'est refait une santé durant la trêve internationale. Il s'est aussi beaucoup reposé à son domicile des Yvelines grâce à une alimentation saine et à l'usage d'un caisson à oxygène hyperbare censé faciliter la récupération. Résultat, le Brésilien n'a jamais été aussi bien dans sa peau au PSG à cette période de la saison. Son entraîneur, Mauricio Pochettino.
La trêve internationale nous a fait le plus grand bien, en particulier à Neymar. Nous sommes très heureux, avant tout de la forme qu'il affiche et de la façon dont il s'entraîne. Il a élevé son rythme de jeu, sa condition physique est bonne. Maintenant, il a juste besoin de jouer.
Et cela tombe bien, deux chocs attendent le Brésilien, cet après-midi contre Lille en Ligue 1, puis mercredi à Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. L'occasion rêvée pour Neymar de démontrer qu'il peut être l'homme clé du Paris Saint-Germain dans ce sprint final.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1, PSG Lille, c'est donc à 17h tout à l'heure avec Neymar, mais sans Verratti. Le milieu de terrain a été testé positif au Covid, une deuxième fois depuis le début de l'année, deuxième contamination peut-être donc. Verratti doit rester à l'isolement et il manquera le match de Ligue des Champions mercredi face au Bayern. Mauvaise nouvelle pour les Parisiens.
Ouais, vraiment, merci Marguerite. Retour de l'info à 8h30 avec Lionel Gougelot.